Et voici maintenant la deuxième partie. Alors, donc, on va parler maintenant de Vampire City avec François. Vas-y François, on t'écoute.
Craignez la nuit parce qu'elle a les crocs. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre.
Donc, tu m'as fait peur.
Non mais c'est intéressant, j'ai eu ma grosse période vampire, je suis retombé dans le jeu de rôle début des années 90, après une petite pause et je suis arrivé les pieds dedans et j'ai joué à vampire, puis j'ai fait du vampire en grandeur nature. Donc là finalement ça me fait un peu bizarre, ça fait un peu comme une sorte de retour aux sources, dans un contexte un peu plus narrativiste on va dire, en tout cas participatif peut-être. Donc, Vampire City. Vampire City est un jeu d'Angus McNichol et Jason Wallace, qui a été traduit par Kevin Bossard et édité chez Pulp Fever. Ce jeu se trouve être le premier exemplaire d'une nouvelle collection de Pulp Fever qui s'appelle Kinky Things. Donc on peut supposer qu'il va y avoir d'autres jeux sous ce label et qui resteront tous dans une thématique un peu...
Coquine.
Ouais. Bon, là on parle quand même de vampire, le côté coquin est matiné d'horreur quand même. Mais bon, donc, de quoi est-ce qu'on parle? Ce jeu, donc, est un livre de 124 pages, est un jeu de rôle avec un MJ tournant, où l'on joue donc des vampires dans un univers qui va être défini de manière participative par tous les joueurs. Donc on n'est pas tout à fait dans le 100 MJ. Bon, j'ai l'impression de retomber un peu sur certains sujets qui étaient évoqués tout à l'heure par Steve. Sauf que là, on n'est pas trop dans la thématique de la franche camaraderie entre joueurs qui s'épaulent et qui construisent quelque chose ensemble. Il y a quand même une notion de compétition entre les joueurs. Je vais vous expliquer pourquoi, mais de toute façon, comme on parle de vampires, on peut s'attendre à ce que ça soit pas les grandes embrassades, les tapes dans le dos et l'amitié...
Compétition de célérité ou d'ospex ou de...
Alors oui, effectivement on peut dire ça. Le jeu fleure bon le vampire des années 90 par certains aspects, mais donc avec une mécanique et une approche du jeu plus proche des thématiques narratives et modernes. Oui.
Ce qui est très marrant, c'est que c'est exactement ce dont on va parler, je pense, dans Third Age, puisque c'est le principe, c'est de faire du donj, donc le jeu le plus ancien du monde, en foutant du narrativisme un petit peu dedans. Et enfin, c'est rigolo de voir cette espèce de thématique qui semble remonter, de remettre au goût du jour vraiment des jeux qu'on fait les grandes heures du JDR, mais en incorporant les trucs innovants, les trucs qui ont changé ces 15 dernières années.
Oui, qu'on a commencé à voir ailleurs. Mais j'en parlerai d'ailleurs sur 13e Age, tu as raison, parce que moi ça me convient pas super. Mais vas-y, continue. Enfin, justement, pour cet édit-là. Enfin, vas-y.
Donc, dans Vampire City, comme je disais, il n'y a pas de meneur de jeu. Les joueurs construisent l'aventure ensemble, construisent le monde ensemble. Tout se fait de manière participative. La décision est faite de manière collégiale. Mais comme c'est un jeu où on joue des vampires, il y a quand même une thématique un peu on se tire la bourre. Toute la gestion de comment est-ce qu'on gère les choses, comment est-ce qu'on va choisir ce que l'on fait, peut se gérer par des enchères. En fait, le principe du jeu, c'est de dire, tant que vous êtes d'accord, tout va bien, vous êtes d'accord, mais dès que vous n'êtes plus d'accord, qu'un tel veut que les choses se passent comme ça et un autre pas du tout, eh bien, il y a un système d'enchères qui permet de formaliser cette opposition. Globalement, on va dire que le but est de raconter des histoires centrées sur les vampires, sur l'univers dans lequel ils évoluent, tout ça dans une ambiance participative. Donc,
qui ne veut pas dire festive pour le coup.
Bah, j'ai du mal, à moins qu'on veuille parler de Twilight ou de Vampire Academy, je pense pas qu'on puisse partir vraiment dans le festive. En plus, la couverture, même s'il y a un joli gros nounours rose dessus, entre autres, ne pousse quand même pas à la rigolade.
D'un autre côté, t'es pas obligé de faire du émo tout le temps dès qu'on parle de vampire, quoi.
On est d'accord. Alors justement, c'est là qu'il y a certaines choses intéressantes.
Les vampires, c'est des gens tristes, mais avec beaucoup en force, t'as vu.
On va revenir là-dessus, justement, sur l'ambiance et sur la thématique. Cela étant, histoire de poser les choses, vu que j'ai commencé à en parler, je vais donner quelques indications sur le fonctionnement du mécanisme d'enchères. Là, l'idée, j'ai l'impression que pour les auteurs, il était vraiment important de mettre en place quelque chose de carré, histoire que tout le monde ait l'occasion d'avoir son mot à dire à un moment ou à un autre. Donc, le mécanisme d'enchères est fait de telle manière qu'au début du jeu, chaque joueur dispose d'un pool de gemmes de sang. jeu de vampire oblige.
Des pions, quoi. Ouais.
Voilà, ce sont des pions, mais ce sont des gemmes de sang.
D'accord.
Chaque fois qu'il y a un sujet qui est mis aux enchères, les joueurs vont miser des gemmes de sang là-dessus, et c'est celui qui mise le plus de points, c'est-à-dire qui finalement par là affirme qu'il a vraiment envie de gérer cet aspect du jeu. Donc celui qui a mis le plus de gemmes gagne le droit de décider l'élément qui a été mis aux enchères. Et toutes les gemmes qui ont été misées par lui et ses petits camarades sont ensuite redispersées entre tous les joueurs, sauf celui qui a gagné. Donc il y a là justement un mécanisme qui va faire que si tu gagnes, si tu as misé un max pour gagner parce que tu voulais vraiment que cet élément soit pour toi, et ben derrière tu n'auras plus énormément de points et c'est tes petits camarades qui auront...
Ouais, c'est un bâton de parole, quoi.
D'une certaine manière, oui. Mais avec cette espèce de petit mécanisme d'enchère où tu vas finalement pouvoir introduire un peu de compétition ou un peu de bluff dans la manière dont tu gères tes enchères.
Et tu es toujours obligé d'avoir des enchères, en fait ?
Non. Tel que c'est décrit dans le bouquin, ça se voit bien dans les exemples, si tout le monde est d'accord, ça peut se faire par la discussion, même éventuellement si plusieurs...
Okay. C'est la règle zéro de Brand.
d'une certaine manière. Si à un moment donné, il y a plusieurs personnes autour de la table qui veulent faire des choses différemment, on passe par une phase de négociation, chacun va avancer ses arguments, éventuellement on va se mettre d'accord pour mixer les idées, parce qu'en même temps, mixer les idées, ça peut être super intéressant. Et puis si jamais on arrive à une situation où on s'aperçoit que de toute façon il va falloir trancher, ben on tranche par une enchère.
D'accord.
Et ces enchères, est-ce qu'elles servent à départager les joueurs pour n'importe quel élément de la narration ou uniquement pour des conflits entre les personnages des joueurs ?
Alors, ça ne sert pas pour des conflits entre les personnages des joueurs, ça sert pour tout le reste.
D'accord, c'est intéressant.
Justement, je vais y venir. Mais merci, tu me fournis une transition en or, c'est cool. Donc, en fait... Comment est-ce qu'on fait une campagne à Vampire City ? On se réunit autour d'une table et on se dit « Ouais, on va jouer des vampires !» Et là, il y a un petit quelque chose qui n'est pas sans me rappeler un jeu de zombies qui s'appelait « All Flesh Must Be Eaten », où l'on pouvait faire du zombie n'importe comment. Et bien là, c'est pareil en fait. Au moment où on se réunit autour de la table, l'une des premières choses sur lesquelles on va se poser des questions, c'est quand est-ce qu'on joue ? À quelle époque ? Dans quel environnement ? Et surtout, à quoi ressemblent nos foutus vampires ? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut des vampires qui soient le fruit d'une malédiction divine ou le résultat d'un virus extraterrestre, etc., etc.
À la Night's Black Agent.
Oui. Peut-être. Alors, je dois avouer que vous en avez parlé, j'ai écouté le Radio Rollist et je ne me souviens plus très bien.
Non, bah, en fait c'est la même idée.
Merci
que...
Merci vieux.
Écoute, de rien.
C'est la même idée que le Blistage, c'est la même idée que Night's Black Agent, effectivement, c'est de dire... on a envie de jouer dans tel univers, dans tel type de personnage, maintenant on va définir tout le reste, c'est-à-dire tous les détails
voilà.
et ce qu'il y a autour.
Exactement. Et donc là, en fait, les deux éléments importants, c'est déjà de définir comment sont foutus les vampires, c'est en ça que je faisais un parallèle avec All Flesh Must Be Eaten, et d'un autre côté, c'est de définir à quoi ressemble l'environnement dans lequel on va jouer. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut se jouer... on va définir à quoi ressemble la société vampirique, ses interactions avec les humains. Donc au final, on peut tout à fait faire une refonte de Vampire la Mascarade, comme on peut faire du Twilight, comme on peut faire quelque chose de plus bledesque, action, etc. Le jeu, pour le compte, propose 4, si je me souviens bien, 4 décors différents en fin de livre pour expliquer, enfin pour donner des idées de comment ça peut se faire. Donc voilà. On définit comment fonctionnent les vampires, on définit à quoi ressemble le cadre. Ensuite, on va se créer les personnages. Et là, je reviendrai sur la création de personnages et la mécanique tout à l'heure. Mais voilà, une fois qu'on a posé le cadre, on choisit les personnages. Et en fait, les joueurs se créent chacun un personnage, vont créer un ensemble de personnages secondaires qui vont évoluer dans l'environnement qu'ils ont créé. Et en fait, au fil des parties, les joueurs seront amenés à incarner soit leur personnage, soit certains personnages secondaires en fonction des scènes. Ce qui me permet d'arriver au déroulement de la partie. Donc, en fait, quand on fait une partie, il n'y a rien, même chose, là, il n'y a pas de préparation à part tout ce que je viens de décrire. Il n'y a personne qui va préparer le scénario à l'avance. Les joueurs se retrouvent ensemble et vont se dire « Ouais, on va faire une histoire de vampire » et se mettre d'accord sur l'axe principal de cette histoire. Et ils vont définir, on va dire, un certain nombre de scènes à l'avance. On se retrouve vraiment dans une logique où, en début de partie, on va dire bah, « Dans notre partie, il va y avoir ça, 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 ça qui va avoir lieu. » Les scènes sont définies très succinctement par une petite phrase. Et c'est à partir de ça qu'on va broder la partie. Et là, je m'aperçois que je n'ai pas reparlé d'enchères pendant toute la phase précédente, pour répondre à la question de Steve de tout à l'heure. Mais voilà, tout ce qu'on vient de décrire, dès qu'il y a un désaccord, un point de désaccord, c'est là qu'on fait jouer les enchères. Et ensuite, dans la manière dont on va gérer la narration de la partie, même chose. En fait, une fois que les scènes ont été définies, qu'on a dit, ben voilà, la première scène du scénario, enfin, il y aura une scène qui ressemblera à ça, il y aura une scène qui parlera de ça, il va y avoir une chasse qui va mal tourner, il va y avoir l'arrivée d'un nouveau vampire en ville, il va y avoir une descente de flics soutenue par des chasseurs de vampires. On a juste placé ça, et ensuite, en lançant la partie, là par contre, on va rentrer dans cette logique de MJ tournant, il va y avoir un des joueurs qui va dire « Ah, moi, la première scène, j'ai bien une idée, je voudrais bien la maîtriser. » Si tout le monde dit « Ok, il n'y a pas de souci. » S'il y a quelqu'un qui fait « Ah oui, non, quand même, l'histoire de la chasse qui tourne mal, j'avais une idée aussi. » D'où, voilà, on cherche tout ça.
Une petite question. Est-ce qu'il y a des suggestions de justement, on va dire, de scènes typiques
Alors, je ne sais plus. J'aurais envie de dire oui, plus ou moins. Enfin, en même temps, tout le bouquin... Tout au fil du bouquin, de ces explications, il y a des petits exemples. On va dire, on suit une partie par le biais des exemples. Donc, oui. ça peut donner quelques idées déjà de ce que tu vas mettre dans le.
Oui, enfin, ça en donne un ou voilà.
Ben, le jeu ne fait que 124 pages. Il y a beaucoup quand même pour la mécanique. Okay. Donc, il n'y a pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Il n'y a pas une partie qui serait consacrée au thème. Ouais. Au thème du vampire et à comment l'exploiter. C'est ouais. intéressant. J'avais pas percuté, mais oui, tu as tout à fait raison. Donc voilà, quand on va jouer chaque scène, les persos, on va décider quels sont les persos qui sont impliqués. Il peut y avoir les persos principaux comme des personnages secondaires. Et en fait, il y a, cela étant, une mécanique dans la manière dont on gère les scènes, dont on les prépare, qui permet de s'assurer que chaque personnage principal aura son heure de gloire pendant le scénario. Il y a un mécanisme qui permet de dire, ok, sur cette scène-là, ça va être mon moment, ça va être le moment de mon perso, etc. Donc voilà. C'est. Alors je le dis là comme ça, c'est franchement c'est très différent de mes habitudes de jeu, donc je regarde tout ça avec un peu de circonspection. Saloperie de mots. Mais ça n'est pas inintéressant. Moi je sais que personnellement je serais peut-être pas forcément très à l'aise dans ce genre de partie, mais ça recoupe des mécaniques que j'ai vues ailleurs. Je pense que ça a moyen de tenir la route. Cela étant, si on compare avec Explo Narrateur de tout à l'heure, on est par contre là dans quelque chose où on est vraiment souvent hors de l'histoire, hors de la narration. C'est l'un des choses qui, moi, me fait un peu tiquer dans ce genre de jeu, c'est ce côté dedans, dehors tout le temps.
Oui, alors, Steve,
je me permets de t'interrompre. Pour l'instant, on a parlé d'un jeu qui s'appelle Vampire City, et tout ce que tu as dit, j'ai rien vu qui avait de rapport avec des vampires. Tu as dit, au moment de construire un setting, il va falloir qu'on parle de vampires, mais au moment de parler du système de règles, tu as parlé de partage de narration, tu as parlé de façon de résoudre les conflits, mais on a l'impression que ça pourrait être Mafia City, Elf City, Dauphin City.
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, quand on regarde la dernière page où il y a tout l'ours du jeu, on s'aperçoit que Vampire City, le jeu d'Angus McNichol et Jason Wallace, est inspiré d'un jeu qui s'appelle Western City, un jeu allemand, si je ne dis pas de bêtises, de Jörg Dunn. Et en fait, effectivement, j'ai mis tout ça en premier. Je vais rentrer dans la partie très vampirique maintenant, en tout cas dans la partie règles liées aux vampires maintenant. Mais en même temps, les vampires, ça reste des personnages comme les autres, c'est une thématique à exploiter. Mm-hmm. On a tout ce côté, on choisit à quoi vont ressembler nos vampires, on choisit l'environnement, mais finalement, le fait de faire des vampires, ça pose une ambiance. Ça pose un contexte de jeu et un style de personnage, un style de scène.
Alors c'est vrai, mais quand tu jouais à Vampire Mascarade, il y avait une partie du système et des mécaniques qui étaient en rapport avec le fait que tu sois un vampire. Il y avait cette logique de points de sang, si ton nombre de points de sang baissait, tu devais attaquer des gens. Enfin, je suis d'accord qu'il y a une couleur qui est le vampirisme, mais il y avait aussi des parties du système qui traitaient cette question.
Là, le lien entre le système et le vampirisme sont plus légers, mais tu es parfait pour me fournir des transitions, j'adore, merci, c'est très pratique. Parce qu'effectivement, là maintenant, je vais parler un peu mécanique de jeu, création de personnages, du point de vue comment on met des points partout, et on va voir quels sont les éléments un peu plus vampiriques. Donc, la mécanique de résolution dans Vampire City s'appuie sur des D8. Un personnage est défini par des attributs et des compétences. Et on résout les actions en lançant, un certain nombre de dés, un nombre de dés égal à l'attribut qui est mis en jeu, et on doit cumuler des succès. Chaque dé qui fait un score en dessous de la valeur de la compétence mise en jeu est un succès. Simple, classique, ça fonctionne.
Et de bon goût.
C'est pas mal. Donc, le personnage est défini par ses attributs, par ses compétences. Comme on est dans un jeu de vampire, il y a des pouvoirs, il y a de la magie. Donc on a toute une liste de pouvoirs dans lesquels on va pouvoir taper pour créer son personnage. Selon le contexte, on va pouvoir en éliminer certains ou en selon ce qu'on a envie de faire comme type de vampire. Mais globalement, on retombe dans une liste de pouvoirs qui est très réminiscente de ce qu'il y avait dans Vampire la Mascarade. Donc voilà, le système de pouvoir est classique, il y a un système de background qui permet d'évoquer un peu les histoires, genre j'ai une crypte, des choses comme ça. Je vais rester sur la mécanique, sur les caractères des personnages, juste une seconde de plus pour évoquer le truc que j'aime bien dans les règles de création de personnages. Comme je disais, elles sont classiques, ça tient bien la route. Il y a une idée assez intéressante, il y a une liste de compétences qui est méga classique, mais un personnage est défini par sa compétence de profession. Tout personnage a une compétence de profession, et là on se rapproche un peu de systèmes à aspect, parce que quelque part cette compétence de profession, c'est son concept essentiel. Mais tiens, il y a un mousquetaire, vu que c'est en plus dans les thématiques, il y a toute une série de personnages prétirés dans le bouquin, et donc chaque personnage a sa compétence de profession, que ce soit le gamin, gentilhomme, l'ingénieur. En fait, le principe de la compétence de profession, c'est que c'est la compétence qui va réunir tout ce que sait faire le personnage. On a une liste de compétences classiques dans laquelle il y a médecine, il y a mêlée, des choses comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de les prendre. Du moment que votre personnage a une compétence de profession qui couvre ce genre d'activité, il sait faire. Si je fais un personnage dont la compétence de profession est neurochirurgien patibulaire, et ben si on me demande de faire une opération, je vais faire mon tirage avec neurochirurgien patibulaire.
J'ai cru que t'allais dire chirurgien pâtissier.
Oui, mais pourquoi pas ?
Ce serait étrange.
Voilà. Cette notion est vraiment l'un des aspects que j'aime bien, parce que moi, en ce moment, j'ai plutôt le nez dans des systèmes à base d'aspects depuis quelques années, donc ça, cette idée-là me plaît bien. Ce qui m'a un peu fait tiquer, en revanche, c'est que dans les prétirés qui sont décrits dans le bouquin, on a l'impression qu'on passe à côté de cette idée. C'est-à-dire que...
Ils ont peut-être fait les prétirés avant d'avoir l'idée ou...
Je sais pas, peut-être. Mais le fait par exemple qu'un personnage dont la profession est ingénieur se retrouve avec la compétence science à côté de sa compétence de profession me...
C'est laquelle sa compétence de profession ?
Ingénieur.
D'accord.
Pour moi, je...
T'as l'impression que ça fait doublon.
Voilà. Mais ensuite, comme toujours avec les systèmes à base d'aspects, ça ouvre le champ aux négociations et à la discussion du est-ce que ça rentre dans la profession ou pas. Mais donc autant sur certains des prétirés ça m'a l'air de bien coller, autant sur d'autres je suis plus circonspect. Voilà, cela étant.
Le problème des systèmes à aspects comme ça, c'est justement le champ d'application de ce que tu vas définir et si ça va pas faire doublon et voilà.
Plus la négociation que tu as avec le maître de jeu à chaque fois que tu veux.
Alors après, est-ce que ça revient à formuler le plus vaguement possible ce que
tu veux dire
un truc. Négociation, oui. Si tu veux l'utiliser sur un effet qu'est borderline, par définition.
Ouais, mais ça va toujours être un peu borderline, tu vois.
Ça dépend. Enfin voilà, le mercenaire qui veut négocier sa paye ou intimider quelqu'un, il n'y aura pas de problème.
Oui, bien
le
sûr.
Mercenaire qui va t'expliquer que parce qu'il est mercenaire, il a des rudiments de médecine sur le champ de bataille, là tu commences à te dire, ouais, éventuellement, pourquoi pas.
Ouais, et puis après il va t'expliquer qu'il est bon négociateur pour négocier les contrats, enfin, tu vois, c'est des trucs.
Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, il y a quand même, à chaque fois, on tape sur un concept de ce type, il va y avoir un cœur de cible où là ça posera pas de problème, et il y aura toujours le petit cercle autour où effectivement, il va y avoir un égo.
Moi, je dois avouer que dans des systèmes qui reposent là-dessus, une solution, en tout cas celle qu'on a appliquée par exemple sur Metal, c'est de se dire si on essaye de me vendre un aspect qui est borderline, ok, pourquoi pas, mais avec un malus qui en réduit l'intérêt.
Du domaine de la négociation.
Mais on reste dans la négociation.
Chacun en lâche un petit peu et voilà. Bref, vas-y, continue, parce qu'on a plus beaucoup de temps.
Oui, mais c'est bon, en plus j'ai un peu fait le tour. Steve, ça répondait à la question en la matière ?
Oui, tout à fait.
Ok. C'est cool. Donc, j'ai fait en fait globalement le tour de la mécanique. Il n'y a pas, donc comme faisait remarquer David, il n'y a pas d'explication sur la thématique du vampire. On est là pour jouer une campagne, mais c'est le truc qui est un peu délicat avec cette notion de narration partagée, c'est qu'il n'y a pas moyen, j'ai l'impression, de fixer des axes de campagne très facilement. Comme on est constamment dans la négociation, de partie en partie, ça peut être intéressant. On peut peut-être avoir une trame globale qui va se détacher, mais on peut aussi courir le risque de...
J'ai l'impression que ça peut être surtout intéressant quand tu fais des espèces de huis clos où finalement c'est entre les personnages que se joueront les, les, euh, Peut-être. Les conflits.
Peut-être.
Alors moi j'aurais une question, est-ce qu'on peut pas précisément appliquer ce que disait Steve par rapport à Explo-Narrateur, c'est-à-dire faire dans un premier temps la mise au point du setting tous ensemble, faire peut-être une première séance à MJ tournant, et après s'il y a quelqu'un qui est chaud patate pour embrayer sur une campagne classique, passer en mode jeu classique
Mais carrément, je ne vois... Enfin, l'idée du MJ tournant est intéressante, mais si tu la retires du jeu, avec le mécanisme d'enchère, tu obtiens un jeu pour jouer des vampires qui tient la route tout à fait, il n'y a pas photo, hein.
Mais avec la plus-value que tout le monde va sentir vraiment impliqué, puisque tout le monde aura aidé à créer le postulat de départ.
Ouais, toi, tu voudrais faire quelques parties de départ pour qu'on crée ensemble l'univers. Bah, encore une fois, j'ai envie de penser à Blistage un peu. Mm. Et puis au bout d'un moment, tu redonnes le rôle au mec qui sent le plus impliqué.
Tout à fait.
Et puis qui a le plus d'idées. Quoi. Tu dis, voilà, c'est toi qui vas gérer ça.
Moi, je sais que sur Blistage, j'aurais envie de le jouer comme ça. C'est le jour où je vais essayer de faire ça. Mais moi aussi, justement, je pense à ça dans une approche plus MJ. Mais voilà, c'est mes vieux.
On a fait une partie avec Steve, justement, et je trouve que c'était un des trucs qui.
Pour finir sur Vampire City, j'ai quand même fait le tour. Je voulais juste parler de l'aspect du livre, donc les illustrations. Les illustrations intérieures sont du traducteur, de Kevin Bossard, dans un style qui colle bien à l'ambiance, parce que c'est un style noir et blanc, sombre, en aplat d'encre, c'est assez sympathique. Et puis pour la couverture, quelques pages en couleur à l'intérieur et les illustrations des prêt-tirés, c'est LTO,
qui s'est
collé. Donc le style est reconnaissable très facilement, c'est joli, j'aime beaucoup. C'est sexy en même temps. Voilà, il y a quelques illustrations très sexy avec de jolies demoiselles fort peu vêtues, plutôt sympathiques. Alors justement, j'allais en parler. Laisse-moi finir. Donc voilà, c'est joli, c'est sexy. J'aime. Franchement, je vais pas râler sur le fait de voir une jolie demoiselle peu vêtue dans les illustrations de mes jeux de rôle. Mais en même temps, j'aimerais bien une certaine parité en la matière. Surtout qu'en plus, quand on parle de vampires, on pourrait s'attendre aussi à voir de beaux effets bien sexy. Anne Rice est passée par là.
Ouais, justement. Je suis entièrement d'accord avec ça.
Haute vampire making out.
Exactement.
Voilà. Bon, franchement.
Mettre un peu plus de. Mélange un peu plus. Oui, vas-y.
Moi, je vais te demander de. De finir une deuxième fois, parce que tu fais un compte-rendu qui finalement est très clinique du jeu, mais moi j'ai du mal à savoir si t'es vraiment enthousiaste.
Tu veux mon impression, ouais, mais en même temps c'était le dernier point que je voulais aborder, c'est quoi mon impression là-dessus? Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est pas un jeu qui est dans mon style de jeu habituel, enfin son côté narration partagée n'est vraiment pas dans mes habitudes de jeu. J'ai tendance à aimer un MJ qui tient la barre de la narration, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Donc pour ce côté-là, moi je suis pas emballé, mais c'est vraiment parce que moi j'aurais pas envie de jouer comme ça. Le côté jeu de vampire simple, oui c'est ça, le côté vampire est simple, il rappelle la mascarade avec un système de jeu plus simple, avec ce côté sympathique de donner plein de pages où on te dit, voilà, les origines de vampires, ça peut être ça. Voilà, 6-7 façons différentes dont quelqu'un peut devenir vampire. Voilà, 6-7 façons dont un vampire disparaît quand on le tue. 6-7 façons sur comment on peut tuer un vampire, etc. Ça, j'aime bien. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est un jeu qu'on peut complètement jouer en virant le côté MJ tournant ou en se lançant pleinement là-dedans.
Je voulais dire, il y a la même chose dans Nice Black Agent en mieux. Alors, ouais, c'est vrai que pour le coup, je suis pas convaincu par l'aspect tournant tout ça, et peut-être à cause du fait que les vampires, ils ont, moi je leur imagine toujours des relations extrêmement complexes qui nécessitent du secret et qui est pas forcément adapté.
C'est une remarque tout à fait. Ouais, le coup du secret, c'est une remarque assez intéressante. J'aime bien. Donc, ça permet de se poser une question. On pourrait se demander si Vampire City n'est pas un Night Black Agent,
Tous pour un est un.
Voilà.
Est au l'homme du cardinal.
C'est-à-dire, c'est un jeu qui propose des choses de base, une mécanique de base, mais à mon avis, la plus-value, elle sera dans ce que les gens vont y amener. C'est-à-dire, d'accord, finalement, le sucré, ouais. La bonne sensation, ouais, elle est dépendante, ouais, de ce que les gens vont y amener.
Donc c'est les gens qui sentent bien le jeu, ils peuvent en tirer vraiment des trucs cool, quoi.
Pour les fans de vampires, pour les mecs qui ont joué à vampires dans les années 90, ça s'en fait péter le ventre et qui ont envie d'y retourner mais qui sont lassés des mécaniques trop lourdes, ça peut être une bonne solution parce que vous ne serez, d'accord, pas encombré par un background spécifique. Vous pourrez ressortir Mascarade ou Requiem et le faire jouer avec un système ultra simple. Oui.
Moi, c'est un jeu qui me fait un peu penser à Hillfolk, qui est le dernier jeu de Robin Dillow, à savoir que une grande partie du jeu et une grande partie de l'intérêt du jeu, c'est de proposer un système de partage de la narration qui est intéressant et qui est différent de ce qu'on voit habituellement. Mais on a l'impression qu'à côté de ça, il y a une thématique qui est un petit peu plaquée et qu'au final, on pourrait reprendre ce système de partage de narration qui, moi, contrairement à Cobal, m'amuse et en faire un peu n'importe quoi.
Donc, oui, c'est ça. Donc, le jeu, j'aurais tendance à dire, s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser dans tout ce qu'on vient de décrire, prenez-le. Vous aurez, soit vous pourrez l'utiliser tel quel, soit vous aurez toujours loisir d'en enlever un morceau ou d'en enlever un morceau pour le jouer ou de sortir un morceau du jeu pour l'appliquer à un autre jeu de votre choix.
On va terminer, je voudrais juste savoir le prix.
Ah oui, j'ai oublié de le dire au début, le livre est à 23,90€.
Ce qui est quand même mieux que 36.
Arrête. Non, mais surtout, c'est pas la même taille, regarde, il a rien à voir le bouquin.
Ouais, bien sûr, alors, mais là au moins c'est adapté quoi.
Oui, c'est adapté.
C'est ça le truc.
Ok, donc on termine sur Vampire City.
Oui, là c'est bon, nous avons fait le tour.
D'accord, alors on va se mettre à 13 images. Donc Jean-Baptiste et moi-même, je vais commencer, et puis tu interviens, et puis tu me contredis, tu ajoutes tout ce que tu veux.
Avec grand plaisir.
13e âge, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique qui est édité en France et en français par le 7e Cercle et par Pelgrane Press en anglais. C'est un jeu qui est écrit notamment, enfin les deux auteurs principaux sont Jonathan Tweet, que certains doivent bien connaître parce que son nom revient assez souvent, avec Robin Dillo notamment.
C'est le créateur de Twitter.
Jonathan Tweet.
Je voulais la faire, il m'a coupé l'herbe sous le pied.
Alors en fait non. Et une autre personne qui s'appelle Rob Ainsow. C'est un livre en couleur à la couverture dure de 320 pages, aux nombreuses illustrations de qualité moyenne à bonne, j'ai envie de dire. C'est pas mal, mais moi ça me transcende pas des masses.
La couve est pas génialissime.
Ouais, enfin bon, ça fait un petit peu années 90.
Franchement, tu vois Pathfinder à côté, c'est notre gueule quoi.
C'est notre gueule.
Ouais, le problème c'est que Pathfinder, le problème c'est tout le reste. Enfin, si je puis.
Bon. Ah mais je suis complètement d'accord.
Non, mais on va pas parler de Pathfinder, on va parler de 13e âge.
Ça attaque direct là.
Donc 13e âge c'est un hack, donc c'est une lourde modification, un lourd ajout on va dire, de Donjons et Dragons, et de notamment dans les versions 3, 3.5 et il tape un petit peu dans la 4.
Là-dessus, je suis d'accord. Mais alors, pour info, pour donc resituer quand même qui sont les créateurs, il faut savoir que donc Jonathan Tweet est un des trois créateurs de la 3 et 3.5, alors que Rob Ainsow est un des créateurs de l'équipe de la 4e. Ouais. Donc c'est vraiment... oui, c'est un hybride, c'est un bébé entre les deux.
C'est de l'OGL D20, en fait, dans laquelle on va taper un petit peu partout, et surtout sur laquelle on fait des gros ajouts. Et j'ai envie de dire, c'est des modifications de gameplay, de manière de jouer, parce que eux ils ont dû se dire bon bah voilà, j'ai pas pu faire ce que je voulais dans la 3 et dans la 4, on va faire notre propre sauce à nous. Jean-Baptiste et moi sommes coutumiers du fait, pour le coup.
Ouais, non, je suis d'accord.
Donc moi je suis pas fan de la présentation du bouquin, je vais essayer de la faire quand même dans l'ordre dans lequel c'est présenté, et je vous expliquerai après pourquoi je suis pas très fan de ça. Donc le bouquin commence très brutalement par une présentation complète de ce qu'on appelle les icônes, qui sont des personnages non joueurs, très importants, des équivalents de, comme on dirait, des demi-dieux, mais ils n'ont pas de pouvoir divin vraiment, ou pas forcément. Ou alors ce sont des symboles, comme des symboles de puissance, dans ce monde qui s'appelle l'Empire du Dragon. Oui.
J'ai un doute là, ce sont des concepts ou des choses réelles ?
Ce sont des choses réelles, ce sont D'accord. des gens qu'on va appeler collectivement des icônes dans le jeu, mais ça reste des gens derrière, mortels ou pas d'ailleurs, mais qui peuvent mourir, qui peuvent changer, qui peuvent même modifier leurs allégeances, leurs choses comme ça. Ce sont 12 personnages, donc il y en a 12. Il y a par exemple l'archimage, il y a l'empereur, il y a la démoniste, il y a le voleur. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des concepts.
J'aime bien, j'aime bien. Parce que là, par rapport à des univers de Medfan classiques que l'on sent systématiquement englués dans leur background avec peu d'évolution dans l'histoire, le fait de poser ce genre de personnage sous forme d'icône, ça permet de dire au meneur, vas-y, te gêne pas pour le buter, le changer, ça permet de créer une évolution dans le monde. Ah, bref, c'est une impression.
Mais en fait, là, on est sur la formalisation de quelque chose qu'on se mange depuis les débuts de Donjons et Dragons, c'est Elminster. Fondamentalement, le principe de base, c'est d'arrêter de vous refourguer... des personnages qui sont immortels, demi-dieux, mais juste parce qu'ils sont niveau 452, là, on est, et qui vont diriger la vie des PJ d'une manière ou d'une autre, là, on conceptualise le truc à fond. Oui, il y a un certain nombre de personnages comme ça. Oui, ce sont des mortels qui ont acquis un stade pseudo-divins, etc. Et oui, ils vont être en relation avec les PJ, mais ce, dès le niveau 1, et de façon beaucoup plus interactive et intuitive que dans les anciens jeux où c'était formalisé de façon finalement assez rigide.
Ok.
C'est une partie très importante et à mon sens le point majeur de l'intérêt de ce jeu. Alors, on passe ensuite... Alors, pourquoi je dis que c'est brutal ? Parce que on fait des explications, on dit pas forcément... On dit qui c'est, on fait une description assez succincte, mais on les situe pas dans l'univers, on comprend pas pourquoi on nous parle d'eux tout de suite, enfin, ce que je viens de vous dire là, on l'apprend bien après dans le bouquin.
Je suis d'accord avec toi, le fait que ce soit le premier chapitre, c'est gênant.
C'est gênant, voilà. Ensuite, on passe à la création de personnages. Alors, a priori, c'est indiqué nulle part, enfin, c'est pas très clair. Le bouquin s'adresse à des gens qui ont manifestement 10 ans de jeu de rôle dans les pattes, qui connaissent bien Donjon et qui maîtrisent le dé de 20 correctement. Pourquoi je dis ça ? Parce que le système de jeu, il est pas vraiment présenté, en fait. Il est présenté par différence par rapport au dé de 20. Donc, t'es censé le connaître. Par différence, modification, ajout, etc. Donc c'est pas, ils te disent pas forcément immédiatement comment lancer un dé, ils te l'expliquent en deux lignes loin, comme si c'était acquis, mais rappelez-vous, c'est quand même un dé de 20, quoi. Donc voilà. Donc la création de perso, il y a quand même pas mal d'indications qui permettent de comprendre les différences entre cette version du dé de 20 et les autres, mais sans que le dé de 20 ou la règle en question soit expliquée elle-même, ok ? Donc ça se construit un petit peu comme ça. Donc sur l'instant, moi j'étais un peu perdu. Alors par chance, je connais quand même assez bien le dé de 20. Je suis dans le cœur de cible des gens qui comprennent ça. Mais on va évacuer tout de suite le fait que c'est pas du tout un jeu d'initiation. C'est un jeu de routard, vraiment. Et ça va se voir encore pas mal après. Donc la création de perso, tu m'interromps quand tu veux, hein, Jean-Baptiste. On commence par choisir une race parmi les races classiques Medfan. Donc on a les elfes, les nains, les humains, les gnomes, tous les trucs comme ça. C'est tellement classique en fait qu'on peut même aller chercher des races spécifiques de donjons, enfin que moi je connaissais que dans donjons, comme les tiflins par exemple.
Qui sont les tricrines.
Je sais non, pas ce que c'est. Non, ceux-là n'y sont pas. Désolé.
Ce sont les hommes mantes religieuses de Dark Sun.
Ah bon, ouais.
Emblématique.
Ce que tu veux dire, c'est que le jeu est compatible avec avec Donjons et Dragons 3.5.
Pas du tout, mais alors tellement pas.
trop, mais par contre, tu peux jouer dans les mêmes univers a priori, sauf Dark Sun.
Non, tu peux pas jouer dans les mêmes univers, puisque le 13e âge, c'est un univers en fait.
Alors, là, c'est un point où nous ne sommes pas d'accord du tout, mais
on en reviendra après. Ouais.
Ah, parce qu'il y a du background.
C'est là qu'on va retomber sur Vampire City, mais enfin, vous allez voir. Donc, on choisit une race classique, facile. Chaque race dispose d'un pouvoir spécifique de race. Qui peut être augmenté, mais on va y revenir, c'est intéressant. Par exemple, les hauts elfes peuvent se téléporter. Les nains peuvent se guérir au combat. Les gnomes sont petits, ce qui est un pouvoir très intéressant.
Bon, on sent bien des D4, là.
Ouais. Ensuite, donc ils ont chacun un. Ensuite, on va choisir une classe. Alors, parmi les classes, c'est très classique aussi. On a le guerrier, le barbare, le sorcier, l'éclaireur, le magicien, le prêtre, etc.
Mais alors, si tu augmentes tes pouvoirs, après, t'es encore plus petit.
Bah justement, non, mais tu t'en sers mieux, en fait. Alors, c'est un jeu qui n'autorise pas le multiclassage. Par contre, un peu à la manière de Machin World, on peut parfois aller choisir un pouvoir spécial d'une autre classe. Par exemple, l'éclaireur, il va pouvoir aller choisir, comme l'un de ses talents à lui, de lancer un sort de sorcier. Donc il va aller chercher dans la liste des sorts de sorciers un pouvoir spécifique, il va s'en servir, il va même le renommer, et il y a beaucoup ça dans les règles, de dire « je vais prendre ce pouvoir-là, mais c'est mon pouvoir, les mecs, hein. C'est pas le sort que le sorcier il lance, c'est pas la boule de feu qu'il lance, c'est ma boule de feu à moi, et elle prend cette forme-là et ce nom-là. »
C'est histoire de dire « on n'a pas quatre sorts de soins dans le groupe.
» Ouais. Non, mais ça fait partie des bonnes idées, je trouve.
Ouais, mais c'est plus, oui, enfin, je suis d'accord avec François là-dessus, c'est plus l'idée de dire que, là, l'exemple, effectivement, du ranger qui prend un sort de sorcier, c'est peut-être le plus exotique par rapport aux joueurs de donjons, mais il y a aussi le ranger peut avoir accès aux sorts de clair, et ça, c'est archi basique, classique. Le ranger, il fait de l'imposition des
mains. Oui, j'ai dit sorcier, pardon, voilà. Ça pourrait être n'importe lequel, je sais qu'il y a les deux classes.
Les deux options sont possibles, ce qui est intéressant.
Le truc auquel je pense de base, c'est avoir... Plus de soigneurs dans le groupe, immédiatement, on pense à ce genre de
évidemment, trucs. Mais de toute façon, le jeu est quand même pensé, ça reste du donjon. Là, on va revenir dessus, mais il faut surtout pas sortir de ce contexte-là, parce que c'est pas fait pour. Mais voilà, là où effectivement le ranger aura le pouvoir du soin et l'appellera les mains du roi sans guérisseuse, hein, en hommage historique, effectivement, ça sera juste pour le paladin qui a aussi cette possibilité d'aller piquer un sort de prêtre, ou pour le prêtre, juste l'invocation de la déesse du soleil, patati patata. Et c'est vraiment l'histoire de donner un style.
Un cachet.
Vraiment, voilà.
Et tu l'as énormément, et dans tout le bouquin. Les persos évoluent sur 10 niveaux, donc contrairement à Donjons qui sont sur 20 niveaux, plus des parangons et des trucs comme ça. Du niveau 1 à 4, ils sont dits aventuriers. Du niveau 5 à 7, ils sont dits champions. Et entre les niveaux 8 et 10, ce sont des héros. C'est très important. Ces paliers vont définir les personnages, donc. Ils vont donner un niveau de puissance global. On va dire, eux, c'est des champions. Donc, on va les envoyer sur des missions de champions. Et ces missions de champions vont se dérouler dans des lieux de champions. C'est-à-dire que quand tu es de niveau 1-4, globalement, on va te mettre en face, le maître de jeu va te mettre en face, des monstres, des environnements et des lieux qui sont au niveau aventurier, et puis et ainsi de suite. Si, quand tu es aventurier, le maître de jeu te met un... comme dans le scénario de base, il te met par exemple un lieu qui est au palier champion, tout ce qui va se passer dans ce lieu sera plus difficile à réussir.
Ça rappelle les trois tiers de D4 ouais. Sur une échelle plus courte, ce qui n'est pas forcément un mal, mais c'est, on sent la parenté, ouais. ça porte un cadre assez intéressant.
Moi, ça me rappelle WoW, où si tu vas courir dans la mauvaise forêt, t'as des araignées énormes.
Ouais. Alors là, t'es censé le décrire quand tu rentres dans le palais qui est champion, alors que toi, t'es aventurier, tout te paraît plus magnifique, les gens, ils te font plus peur, c'est un peu compliqué, donc tu as plus de difficultés de discuter avec eux, etc.
Tu te sens pas dans ton monde.
T'es pas dans ton univers. Et à l'inverse, quand tu seras champion, les trucs héros vont te paraître moins loin qu'avant, et ça va être toujours plus difficile, mais tu vas pouvoir y penser, etc.
C'est l'histoire du Pégu qui rentre dans le château de l'empereur et qui sait plus où se mettre, même si c'est un mec qui est doué, il va quand même.
Ouais, alors le mec il est super doué, mais il va rentrer dans le château de l'empereur qui est niveau champion, par exemple. Toutes les portes pour les crocheter vont être plus dures, parce que le lieu est niveau champion. Donc la difficulté globale, les pièges vont être plus durs. Tout va être de 5 degrés supplémentaires, ok ? Enfin, d'un degré supplémentaire. Donc
les cubes gélatineux champions.
alors ils ont leur niveau, les monstres, c'est encore autre chose. Chaque classe de personnage possède son propre gameplay, j'appelle ça, donc sa propre manière de jouer, avec des règles et des mécanismes très différents les uns des autres. Les auteurs ont défini un ordre entre les classes en fonction de la complexité pour la jouer. Moi, je trouve ça plutôt pertinent et intéressant. Ça n'a jamais été fait, donc je trouve ça sympa. C'est de dire, attention, t'es un joueur quelconque, tu veux pas te prendre la tête. Bon, tu vas me dire, c'est assez simple, mais tu veux pas te prendre la tête avec les règles, parce que les règles, ça te saoule et que toi, t'as envie de bourriner, tu vas te faire un barbare. Parce que le barbare, eux, ils considèrent que c'est il est pas moins fort que les autres, il est juste moins complexe à jouer.
Il est plus simple à jouer, c'est ça.
Il est plus simple à jouer, même techniquement. C'est-à-dire que ses pouvoirs sont plus simples, c'est genre des ajouts de points de vie, des guérisons en plein combat, des dommages en plus, enfin tu vois, c'est assez simple. Le guerrier, par exemple, il se situe pas au début, il se situe à peu près au milieu, parce que le guerrier, il utilise des attaques et des mécaniques de jeu complexes. Par exemple, il va déclencher ses pouvoirs en faisant des résultats, par exemple, pair sur le dé d'attaque, ou alors plus de 16, ou alors sur un échec s'il porte un bouclier, etc. Il y a des conditions différentes.
Je pourrais jouer un barbare à ce jeu.
Ouais. et le magicien, comme c'est une magie semi-freeform modifiable, enfin, c'est celui qui est le plus complexe à jouer, qui demande le plus d'investissement, et puis pas forcément d'imagination, mais en tout cas peut-être... plus de compréhension innée un petit peu de la manière de jouer. Dans ce cas-là, c'est le magicien et ça va être le joueur peut-être le plus expérimenté à table qui va se le colter.
C'est surtout celui qui aura lui aussi acheté le manuel et qui aura tout le temps pour réviser le jeu chez lui. Ouais.
J'ai une question justement à ce sujet-là. Ils ont réussi à bien équilibrer ça, c'est-à-dire le fait que les classes simples, enfin que les classes faciles soient finalement tout aussi intéressantes et le même apport pendant les parties que les classes complexes.
Moi, c'est un peu tôt pour le dire, dans le sens où le jeu est jeune. Ouais. Il y a très peu, je pense, de campagnes jusqu'au 10e niveau qui ont été menées autrement que par les auteurs. Donc, ça paraît très difficile d'avoir un retour sur l'équilibre global. À la lecture, je pense que ça fonctionne très bien, mais ça implique des défauts. Et notamment, là, on va revenir dessus parce que c'est un des points négatifs sur lesquels Yannick et moi, on est d'accord. Ils ont équilibré les classes combattantes qui ont toujours été un point faible sur les éditions antérieures à la 4. La 4 avait réglé ça aussi, mais de façon différente.
Oui. Équilibrer d'ailleurs, c'était plutôt intelligent, la 4, de ce point de vue.
Ouais, mais d'aucuns te diraient que dans la 4, à ce moment-là, c'était jouer le magicien devenait vraiment, vraiment embêtant parce que t'étais finalement la machine à broyer les mooks. Et ce qui peut être sexy, parce que quand on te décrit l'histoire, c'est juste que d'un geste de la main, tu vas friter 10 personnes.
Ouais.
Mais par contre, en tant que joueur, à partir du moment où t'as un petit peu un regard, tu sais que le gros dragon en face, c'est pas toi qui va lui faire les dégâts, c'est le voleur. Ce qui pour un est toujours un petit peu frustrant. Donc pour revenir sur 13e âge, là le truc c'est qu'ils ont vraiment équilibré les classes au forceps, notamment avec ce système d'augmentation des dés de dégâts.
Je vais en parler.
Des niveaux de 1 à 10, voilà, et Yannick et moi on est d'accord, c'est un des aspects les moins élégants de la mécanique. À chaque fois que tu augmentes d'un niveau, tu augmentes d'autant le nombre de dés de dégâts que tu lances. Donc au niveau 10, tu lances 10 dés de dégâts à chaque attaque.
Ouais, c'est un minimum. Je vais en parler juste après.
Tout type de personnage.
Voilà, attends, je te dis, on va repasser après parce que ça fait partie du chapitre justement sur les règles elles-mêmes. Il a raison, c'est un petit peu complexe. Moi je trouve que l'équilibrage est un petit peu.
Effectivement, c'est un équilibrage purement mécanique.
C'est très mécanique.
C'est très mécanique. Alors après, je pense que ça.
Mais je vais dire, il y a aucune justification quoi que ce soit.
Ah, là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a une justification si on regarde sur l'ensemble du livre. Mais je veux pas en fait couper Yannick dans sa présentation. Oui, je pense qu'on pourra débattre de certains aspects problématiques après. Mais ça se justifie. Le truc, c'est que en jeu, et je conclurai là-dessus, lancer 10 dés de dégâts à chaque attaque, c'est juste bête. Ouais, justement. Comme bien le dire.
Donc, j'enchaîne sur le chapitre du combat parce que c'est ce sur quoi on est en gros, parce qu'on reste sur du dé de 20. Et que,
restons sérieux, les enfants.
Restons sérieux. C'est un jeu qui est fait pour faire des trucs héroïques avec de la baston, des trucs comme ça. Mm-hmm. Moins de négociations, mais en gros, tu montes de niveau quand t'as gagné 4 combats. C'est assez mécanique là-dessus. Alors, ce chapitre-là, pardon, sur le combat, il va décrire toutes les options, tous les concepts qui ont été utilisés jusqu'à présent. Donc, on est à peu près au premier tiers du bouquin, fin du premier tiers. On a utilisé beaucoup de concepts qu'on n'a jamais expliqués jusqu'à maintenant et qu'on explique maintenant dans le combat. Donc, moi, tu tapes quand même un certain nombre de pages, une centaine de pages avant d'arriver à comprendre de quoi tu parlais juste avant. Notamment toutes les classes, par exemple, tu as tout ce qui est décrit, la force, la constite, mais les pouvoirs qui te disent lancer 2 dés de 20, prenez le meilleur, etc. Sauf que tu sais pas comment on fait une attaque. Ou...
Ah, en gros, donc ça nécessite d'être lu entièrement et très attentivement.
Oui.
Pour revenir sur ce qu'a dit Yannick, et là encore, on
c'est pour les vieux routards.
C'est juste c'est une édition de DD qui est à proposer à des gens qui ont déjà joué à DD avant. Tu ne fais pas un jeu d'initiation avec ça, tu l'offres pas à ton petit cousin.
C'est évident, oui, bien sûr.
Alors, donc le combat, il est plutôt classique au final dans son déroulement. Il y a toujours un déplacement, une attaque normale, mais il y a plein de petites choses qui vont quand même changer la donne et qui vont te donner un certain nombre de possibilités. Comme on disait tout à l'heure, et ça c'est un point sur lequel je trouve un peu... Voilà, les dommages sont déterminés par un dé quelconque en fonction du type d'arme et de la classe. Alors ça, je trouve ça sympa. Par exemple, un voleur, t'as une petite table à chaque fois pour chaque classe qui te dit quel dommage tu fais et quelle arme. C'est pas dépendant de l'arme vraiment. Bon. Typiquement, le voleur, il fait un déduit de dommage avec la dague, avec l'épée ou avec la masse à deux mains. Il fait toujours un déduit de dommage. Okay. Le guerrier, lui, ça va dépendre de son arme. Typiquement, avec une dague, il va faire un D4, il va faire un D6, avec une épée, un D8, et puis avec une grosse épée à deux mains, il va faire un D10, un truc comme ça. Le barbare, lui, tape au D12 avec sa hache à deux mains, mais chaque classe a ses armes privilégiées, son armure privilégiée, et peut très difficilement en sortir. Donc il fait son déduit de dommage, on va dire le voleur il va, ou le guerrier, il arrive avec son épée, pof, il va taper l'autre avec son épée. On va lancer autant de dés de dommage que le niveau du personnage. Si t'es niveau 6, tu vas lancer donc 6 déduits de dommages. Ensuite, on ajoute le bonus de Karak. T'es guerrier, tu frappes avec ta force, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, de l'éclaireur qui peut toucher avec sa dexte et faire des dommages avec sa force. Encore une fois, ça dépend de chaque... Bah, c'est pour chaque classe différent. Donc, il va faire 6 déduits de dommages plus, son bonus de force, on va dire plus 3. Sauf que le bonus de force, il est modifié par ton palier. C'est-à-dire que si t'es aventurier, ça fait x1, si t'es champion, ça fait x2, si t'es héros, ça fait x3. Donc, si t'es niveau 6, tu vas lancer 6 déduits plus 2 fois ta force. Et ça va te faire tes dommages. Okay, donc ça fait une moyenne de 23, un truc comme ça, on va dire. T'as bien compris que plus tu montes, plus tu vas lancer de dés. Et au bout d'un moment, tu vas lancer des brouettes de dés parce que t'as des pouvoirs qui vont t'en ajouter. Typiquement, t'as l'attaque. L'attaque surprise, l'attaque dans le dos, là, le backstab du voleur qui va te permettre d'ajouter un dé de 6 par niveau ou un dé de 8 par niveau à ton attaque. Donc tu vas lancer, t'es niveau 6, tu vas lancer 12 dé de 8 de dommages si t'as réussi à faire une attaque sournoise. En plus de ça, donc je disais, c'est en compter les pouvoirs spéciaux, les attaques surprises et autres joyeusetés. Ensuite, comme je disais, chaque personnage a sa propre manière de jouer. Par exemple, le guerrier va déclencher ses pouvoirs si le dé de 20 donne un certain résultat. Donc parfois, il faut un échec, parfois, il faut une réussite avec un jet naturel sur le dé de 20 de 16 ou plus, parfois, il faut un résultat pair, parfois, il faut un équipement particulier, etc. Donc ça, c'est juste pour le guerrier.
D'accord.
Le barbare, il va avoir des trucs différents, le clairreur, des trucs différents, le voleur, des trucs différents. Le voleur, il a un pouvoir qui permet de disparaître pendant un tour et quand il réapparaît, il fait deux fois les dommages, etc. Donc il y a vraiment des gameplays super, super différents. Donc ça demande de connaître sa classe. C'est comme un MMO, en fait. Il faut connaître sa classe et puis tu peux pas connaître vraiment celle des autres à moins de l'avoir joué. Okay.
D'accord.
Moi, ça me casse un peu les burnes, mais ok.
Je voudrais juste pondérer ce truc-là. Même en admettant... ce point-là, certaines classes sont vraiment très faciles à jouer. Le barbare, vraiment, choquera personne qui est habitué au D20 de près ou de loin. Okay. C'est vrai que certaines classes sont un peu compliquées. Moi, je suis loin d'être convaincu par le système dont des attaques flexibles du guerrier et son équivalent qui est assez proche, c'est les champs des bardes. C'est un système que je trouve pas hyper élégant. Mais ceci posé, même la classe la plus longue et la plus compliquée du jeu, son chapitre spécifique tout inclus, hein, j'entends, notamment pour les mages sort inclus, c'est 6 pages. Hein.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Tu dois te fader 6 pages.
Oh, non, 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 c'est vrai que c'est pas beaucoup.
On n'est pas dans Shadowrun.
Ah, mais ça va alors.
Voilà, non, non, c'est, non, non. Le barbare tient en 2 pages et demi, le mage tient en 6 pages. Hein, donc,
en fait, la dernière édition de Donjons à laquelle j'ai vraiment joué, c'est AD&D 2. Et le mago.
Ah bah, le mago, il avait un bouquin de sorts pour lui.
Voilà, mais quand... et alors, du coup, les sorts et tout ça.
Alors, en fait, Yannick va en parler.
Ouais, le sort, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont assez flexibles. Il y a possibilité. Alors, chaque sort est considéré comme un pouvoir. Parce que je vais parler des prouesses après. Mm-hmm. Et tu peux le faire évoluer. Généralement, tu te concentres sur quelques trucs que tu transformes un peu. Et puis voilà, ça te fait ton mago, quoi.
En fait, les sorts ont des upgrades. C'est-à-dire qu'en réalité.
En distance, en durée, en nombre de personnes atteintes.
On va parler, je vais peut-être anticiper un peu la chronique, donc ça m'embête un peu. En fait, on va parler du système de dons, qui est pour moi une des grandes ingéniosités mécaniques du.
Alors, on va continuer sur ce que Yannick disait.
Ouais, de toute façon, on y arrive, mais. D'accord. On va en parler tout de suite. Vas-y, continue.
Le principe, c'est qu'en fait, les dons dans 13e âge sont uniquement composés de ce que moi j'appelais à l'époque de la 3.5 les dons invisibles, c'est-à-dire qu'en fait tous les dons de 13e
invisibles,
les deux que tu ne vois pas sur ta feuille, t'as pas une nouvelle entrée sur ta feuille de perso, ça a juste changé quelque chose qui était déjà là. Et d'accord, en fait le principe c'est que tous les dons sont des upgrades de capacité de classe, tous, absolument sans exception.
Non, quasiment, parce que t'as les à part justement, j'allais dire, à part les prouesses générales qui sont,
il y en a 6,
il y en a 2, ouais, ou 10 qui sont tapés dans la 3.5, notamment Science de l'initiative, qui donne plus à son initiative, qui est tellement décalée par rapport à la qualité de l'écriture des autres prouesses, que je trouve ça hallucinant de les avoir regardées.
En même temps, c'est extrêmement simple. Genre, t'as juste un bonus qui change sur ta fiche, c'est super basique. Et là, en fait, pour le mage, en fait, tu vas choisir, toi, tes sorts de prédilection, et tu vas probablement mettre des dons dedans pour les upgrader, donc augmenter le nombre. Par exemple, l'exemple typique étant le projectile magique dans les autres éditions de D&D qui augmentait naturellement avec ton niveau, t'en balançais 1, 2, 3. Bon, là, t'as déjà ça. C'est-à-dire que si tu le lances en tant que sort de niveau 1, ce sera le projectile magique de niveau 1, mais tu peux aussi le bloquer sur un slot de sort plus élevé pour qu'il fasse donc toujours plus de projectiles, et tu peux mettre des dons dedans pour que par exemple ton projectile fasse un ongoing damage, donc des dommages le tour de suivant, etc.
D'accord, ok, voilà. D'accord,
et donc, tout est comme ça.
Alors, ok, ça a l'air plutôt cool pour certains sorts emblématiques. L'un des avantages des vieilles éditions de donjons auxquelles j'ai joué, donc à AD&D 2, c'était l'extrême variété de ce que pouvait faire un mage.
Non, mais là c'est toujours le cas. T'as pas mal de sorts, t'en as effectivement beaucoup moins que dans Donjons, mais comme ils sont.
Mais tu me dis sur 6 pages, il y a 15 sorts, un truc comme ça. Non,
Cobal, il n'y a pas forcément qu'une seule classe de lanceurs de sorts.
Non, t'as aussi les prêtres, t'as aussi les sorciers.
Là, faut pas. Enfin, à mon sens, si tu prends des D2, vu que c'est ta référence là,
oui.
Dans Donjons et Dragons 2, le magicien, il y avait cette notion d'école qui disait qu'en fait, sous la classe de magicien, il y avait en fait une petite dizaine de classes de magiciens, chacun spécialisé.
Et t'as joué ça, toi ? Moi, je jouais toutes les écoles en même temps, n'importe comment. Allons.
Ouais, mais alors, ceci dit, parlons peu, parlons bien. Toute personne qui s'est intéressée un peu sérieusement au D20, même de façon, en envisageant un jeu de rôle un peu plus moderne et un peu plus libéré à la table, c'est que jouer un mage dans les vieilles éditions de D&D, il n'y a pas plus chiant. Pour toi et surtout pour tous les autres. Parce que fondamentalement, t'as le voleur qui a sa feuille d'aventure. Sa feuille d'aventure, toi, t'as ton bottin d'aventure, puisque t'as ta feuille plus tes 14 pages de sorts. Oui. Que chaque matin, quand tu dois préparer tes sorts, t'es là. Excusez-moi les mecs, on va mettre la partie en temps mort pendant 3 minutes parce que je vais cocher mes trucs. Quand je dis 3 minutes, je suis gentil.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
D'un point de vue de gameplay pur, c'est insupportable. Et la quatrième avait dit stop et elle a eu raison de dire ça. Elle a raison de dire on arrête ça.
Voilà, donc dans 13e âge, c'est effectivement pas mal fait.
D'accord.
Un point, dans le combat, il y a un truc intéressant qui s'appelle la montée en puissance en français. Je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Escalation dice.
J'ai pas eu la réponse à ma question, mais on le fera peut-être un peu plus tard au cas où.
De quoi ?
Mais en fait, je vois pas quelle est l'étendue des types de sorts d'un mago là-dedans.
C'est tous les trucs classiques. En fait, il y a plein de sorts. Bon, alors je vais te dire. Il y a pas mal de sorts qui te demandent de définir l'effet avec le MJ. C'est-à-dire que tu vas le lancer dans un certain contexte, tu vas faire, par exemple, il y a un sort de niveau 9 où tu vas faire appel à une des icônes, qui est l'empereur, qui est l'archimage, évidemment, et en fonction de la réussite d'un certain jet, tu vas négocier avec lui des sorts en plus, ou des effets spéciaux. Tu vois, une espèce, c'est comme un espèce de souhait, comme je te dirais, dans,
oui,
dans
oui.
les dans
ah,
les
d'accord, versions. Ok.
Donc, tu as des sortes protéiformes comme ça aussi qui te permettent de couvrir plusieurs effets en fonction. C'est pour ça que je disais semi-freeform, tu as quand même un cadre et en même temps, tu vas pouvoir décrire des trucs.
Ouais. Je crois qu'il y a un sort de magicien qui, par essence, couvre un petit peu ce que tu demandes, qui est le. Alors, en anglais, c'est un hommage à Jack Vance, en fait. Je sais plus comment ils l'ont traduit en français, qui est un espèce de cantrip freeform.
Ouais.
Où
ouais,
le principe, le c'est vraiment de faire de la magie mineure.
Oui.
Et, voilà, on s'en met pas à le formaliser.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Plein d'effets décrits, et si tu rajoutes des prouesses, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est
d'accord,
super freeform.
Ok, très bien.
Parfait. Voilà. Donc, je disais un point particulier pour le combat, c'est la montée en puissance. Donc, c'est matérialisé par un dé de 6 qui donc, commence à 0, c'est-à-dire qu'on ne le met pas au premier round, qui augmente de 1 à chaque tour. Donc, au tour 1, il va être sur le 1, au tour 2, il va être sur le 2, etc. Donc, sa valeur, ça donne un bonus qu'obtiennent les joueurs pour le round en question. Par exemple, s'il est à 2, hop, tous les joueurs vont obtenir un bonus de plus 2 à l'attaque. Donc on voit bien qu'en faisant ça, on rend les personnages de plus en plus puissants au fur et à mesure que le combat avance. Et après les rounds 4-5, normalement, ils touchent tous comme des bourrins et ils défoncent les monstres en face. Donc ça permet d'accélérer les combats. Il y a aussi des mécaniques autour de ça. Les monstres ne peuvent pas en bénéficier, à quelques rares exceptions, typiquement les dragons. Donc quand tu es en face d'un dragon, non seulement il est balèze, mais en plus, plus toi t'es balèze, plus lui est balèze, donc ça chie un peu. Et tu as certains pouvoirs qui se déclenchent lorsque la montée en puissance est par exemple pair, impair, inférieur ou supérieur à une certaine valeur, etc. Okay, par exemple, tu as un pouvoir de grâce, grâce elfique qui permet d'obtenir des actions supplémentaires. L'elfe, il va lancer un dé. Si le dé est inférieur au niveau de montée en puissance du rune en cours, il gagne une action supplémentaire. Okay, il s'ensuit un chapitre sur les conseils de maîtrise. Comment utiliser les icônes, les liens qu'ont les icônes avec les personnages, c'est très important, il y a une grosse mécanique autour. J'ai un reproche à faire là-dessus, il y a une mécanique, tu vas créer un lien avec une icône, c'est-à-dire tu vas décider de à quel point tu es lié à cette icône-là, donc ça va impacter l'histoire, et ça va impacter ce qu'elle attend de toi et ce que tu vas pouvoir lui demander. C'est un lien qui va être entre 0, donc si tu ne l'as pas, et 3, pour un lien maximum. Au début de chaque scénario, ou à certains moments, tu vas lancer les dés. Si tu obtiens des 6, tu vas pouvoir demander des choses intéressantes à l'icône. Ou alors, l'icône va intervenir plus ou moins dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est le maître de jeu qui, en fonction des résultats qu'il y a autour de la table au début, va décider comment est-ce qu'il fait intervenir l'icône. Tiens, aujourd'hui, ça va être la druidesse parce que c'est mon éclaireur qui a fait un bon jet qui est lié le plus à la druidesse, etc.
Ok, d'accord.
Alors moi justement, enfin j'aime bien cette idée, mais c'est vraiment pour le MJ qui a envie d'un petit peu improviser et une house rule qui est, enfin une règle maison qui tourne énormément sur le sujet, et plutôt de faire tous les jets à la fin de la partie pour impacter, pour que le MJ ait le temps de rebondir pour la partie suivante.
Ouais, tout à fait.
Ah oui, c'est pas mal. Alors, c'est pas con. Ouais.
Ça c'est la mécanique de base. Faut savoir qu'en fait les liens sont utilisés à plein d'endroits et qu'à chaque fois la mécanique c'est faites ça, mais si vous voulez faire ça faites-le, et puis si vous voulez pas on s'en fout. Voilà, cette attitude-là, elle est présente aussi à plein d'endroits dans le bouquin. Vraiment, vraiment, et c'est hyper pénible à lire, en vrai. C'est-à-dire que... Enfin, pour moi, c'est pénible. Vas-y.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais enfin, est-ce qu'on... je t'interromps. Il y a un ton, et je peux comprendre que ça agace, qui est extrêmement informel, qui avait déjà été employé par Monte Cook sur son Book of Experimental Might pour la 3.5, qui est vraiment l'idée de dire, voilà, on est deux game designers, on a bossé sur les éditions auxquelles vous avez déjà joué. Là, en l'occurrence, voilà comment nous, on joue, parce qu'en fait, les deux mecs sont potes, et c'est le 13e âge, c'est leur donge à eux. Voilà comment nous
d'accord,
on joue.
D'accord, ok. Voilà. C'est intéressant ça.
Voilà ce qu'on aime faire. Mais globalement, effectivement, il y a un petit côté on force personne. T'aimes ça dans notre jeu, mais t'aimes pas notre jeu, bah prends le truc que t'aimes et joue-le dans ton système. Ou alors, t'aimes ça dans tel autre jeu, mais fous-le dedans, ça peut marcher, etc. Il y a plein de petits conseils. Et effectivement, il y a un côté, on est une chouette bande de potes. Nous, on t'explique comment on joue. En gros, fais ce que tu veux, pépère. Je peux comprendre que ça énerve. Il n'y a pas le côté formalisé, super cadré, etc.
C'est pas que ça m'énerve, mais ils partent avec... en gros, et j'anticipe un peu sur la fin, mais c'est pas grave. Il y a un côté, tu l'as dit, bande de potes. Moi, j'ai dit tout à l'heure, hors antenne, il y a surtout un côté tas de notes. C'est-à-dire que, voilà, exactement. Nous, ça fait 10 ans qu'on joue comme ça. On kiffe grave, regardez, c'est bien.
Ça reste cohérent avec ce que vous disiez au tout début sur le côté, sur le fait que 13e âge, on ne pouvait pas rentrer dedans de plein pied, que c'était un bouquin pour des gens qui ont déjà fait du D20, du DD3, du DD4, etc.
C'est les...
ouais.
Les ludosaures parlent aux ludosaures.
Ouais, ouais, c'est un peu ça.
Oui,
alors, on anticipe un peu. Je finis juste sur ce, les deux trois trucs que j'ai bien aimés, enfin que j'ai bien aimé, enfin qui sont ensuite décrites. Donc je vous ai dit, il y a les conseils de maîtrise. Donc il y en a pas mal. C'est classique, mais c'est indispensable parce que le jeu, encore une fois, il est très spécial parce que on essaye de mettre sur une mécanique extrêmement rigide des concepts et des idées extrêmement modernes, tels qu'on les voit dans Machin World, tels qu'on les voit dans Bliss Stage ou dans Vampire City ou d'autres jeux équivalents. Et c'est ça, ça participe pas à mon énervement, mais à mon interrogation de me dire, tu pars d'un truc, t'as une idée qui est géniale, et puis tu vas l'alourdir avec des mécaniques, avec des tableaux partout, des choses comme ça. Bon. Une fois qu'on a passé les conseils au maître de jeu, on a un bestiaire, il y a quelques idées sympas, notamment les blocs stats de chaque monstre, et donc les blocs stats sont très petits, un monstre est déterminé par ses points de vie, ses défenses en général, une attaque principale, donc ses défenses, c'est-à-dire classe d'armure, etc. Mm-hmm. Une attaque principale, pardon, et une ou deux, on va dire, compétences ou pouvoirs spéciaux, un truc qu'il est capable de faire pendant le combat, c'est assez court. Il y a aussi une option qu'on appelle un coup fourré, qui donne une petite liste de pouvoirs à utiliser de temps en temps pour typer un monstre en particulier ou surprendre les joueurs. Moi j'aime bien l'idée de dire, voilà, vous allez combattre des fourmis géantes, et puis à un moment il y en a une qui va avoir un pouvoir un peu différent des autres. Ils te disent vous faites ce que vous voulez, mais en attendant on va vous décrire quand même une liste de pouvoirs susceptibles d'être utilisés par cette créature à ce moment-là. Chaque monstre est décrit très simplement, et puis on peut le customiser, en ajoutant un ou deux pouvoirs spéciaux, en modifiant un petit peu son niveau, ses points de vie, etc. Tout ça, c'est bien expliqué. Très technique, mais bien expliqué. Une fois qu'on a fini le bestiaire, on a une description du monde. Alors, je vais pas trop rentrer dans cette description typique. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que bon, c'est du Medfan, il y a des dragons, des démons, des elfes, voilà, bon, tous les trucs habituels. L'originalité principale, donc, ça vient des icônes et du fait que tout est lié à elles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, en gros, le maître de jeu est invité très fortement, avec une fourche derrière les fesses. Ce serait bien quand même que ce soit lié à une icône ou à une autre. Donc l'icône, je vous ai dit, c'est un symbole qui cache donc un personnage, tout ce qu'il y a de plus normal, qui peut être un demi-dieu, mais ça peut même être un personnage niveau 8, n'importe. L'idée, c'est de dire, c'est un héros quand même, faut pas déconner, mais il a des choses qui se passent, il est englué dans un système politique complexe, et les 12 icônes sont en équilibre les unes avec les autres. Donc il y a aussi ce truc-là que bah, si la démoniste, je sais pas moi, si la démoniste lâche les démons un peu partout, ça va faire chier tout le monde, et la démoniste elle-même, parce qu'elle préfère régner sur un truc qui n'est pas complètement détruit, alors que si elle lâche des démons, bah, tout va être détruit. L'empereur, il essaye d'équilibrer avec la druidesse, qui est la nature, et l'empereur, lui, c'est plutôt la civilisation. Donc il y a tout cet équilibre-là, et tout est lié à ça. C'est-à-dire, les lieux sont liés à ça, les personnages sont liés, etc. Donc ça, c'est très important. Une fois qu'on a terminé ce chapitre sur le monde, alors pourquoi, oui, la deuxième chose qui est importante, c'est que le monde est vaguement décrit, enfin il y a des lieux, il y a des endroits, etc., mais que quasiment à chaque fois on te dit, bon bah voilà, t'es pas obligé, c'est bien, mais si t'as une idée. Attends, j'ai oublié un super truc important, excuse-moi, je vais en parler, c'est les concepts et pour les personnages. Je reviens sur la création de personnages elle-même. Excusez-moi, il y a deux choses très importantes. Il y a ce qu'on appelle les concepts qui vont remplacer les compétences classiques discrétion, ouvrir les portes, trouver objet magique, enfin bref, trouver objet caché.
Trouver objet magique. c'est très adapté au donjon.
Ouais. ils ont remplacé ça par les concepts qui sont très exactement les aspects dont on parlait à un autre moment des autres jeux. Tu vas avoir 8 points à dépenser pour t'acheter des aspects type maître voleur de la lune rouge. Voilà, pour t'acheter, je sais pas, barbare des marais du sud, ça peut être, ou alors des choses comme amoureux de la comtesse machin, etc. Tous ces concepts-là, ils sont censés donner des idées au MJ, et si t'arrives à les justifier en jeu, ils vont te donner un bonus à ton jet de dés pour battre la difficulté.
De facto, en fait, ils ont fait le choix d'avoir un set de compétences freeform.
C'est bien, voilà, moi je suis pour.
Moi j'aime bien aussi. Le deuxième truc, c'est ce qu'on appelle la particularité unique. J'ai beaucoup aimé, et surtout qu'ils en font genre une page rien que là-dessus, ou plus même, c'est chaque joueur décide, avec le MJ, mais vraiment décide d'une particularité que possède son personnage, qui est absolument unique dans le monde, et qui peut impliquer n'importe quoi. Tu peux dire, je suis le plus vieil elfe de la planète. Voilà, tu fais comme ça.
Il faut que ce soit sans conséquence, en fait.
Non. C'est un élément clé de ton personnage. Alors, et pour savoir ce qui est très marrant,
c'est que je sois le plus fort du monde.
Non, parce qu'il faut jouer le jeu. Faut pas que ce soit un truc qui va donner des bonus chiffrés, mais par contre, un truc qui fasse avancer l'histoire. Il faut savoir que c'est très rigolo, mais je pense que c'est très révélateur. Cet aspect-là, qui a été le plus souvent choisi en convention quand ils ont fait tester le truc qui arrivait quasiment à chaque table, il y en avait un, c'était « Je suis le fils bâtard de l'empereur ». quasiment systématiquement. Voilà.
C'est bon ça.
Voilà, mais ce qui est
quand,
très...
quand à la base on te dit que les persos sont liés aux icônes, enfin que chaque personnage est lié à une des icônes d'une manière ou d'une autre, ou même à plusieurs, tu vas fatalement vers ça. Alors l'empereur, c'est l'idée qui vient tout de suite, mais derrière se dire ouais, je suis le futur archimage en devenir.
Ah mais ah, juste mais peux. Mais il y a voilà. Mais il y a même aussi je suis la réincarnation d'une icône d'un des 12 âges précédents et je suis venu reprendre mon truc.
Ça j'aime ce que j'aime beaucoup là par rapport à d'autres jeux de donjons d'une manière générale, c'est que ça donne, j'ai l'impression que ça donne au personnage une importance dans l'histoire.
Dès le début.
C'est pas juste en fait, vous êtes des aventuriers. Non, vous êtes des gens.
T'es niveau 1, tu es le meilleur archer de la région. Voilà, même si c'est pas vrai, même si t'as gagné 3 fois le concours pour une raison quelconque, ou
7 d'un coup, tout ça.
7 d'un coup, ou alors je sais pas, moi tu t'es crevé un œil parce que tu voulais montrer que t'étais courageux et con en même temps. Enfin, tu vois, ça peut être n'importe quoi, ça peut être faible. Si t'as pas envie d'avoir trop d'importance, ça peut être super, super, super important. La seule contrainte, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas d'impact chiffré, dans le sens je mais suis le plus gros lanceur de boules de feu du monde et je tue tout le monde sur 10 km. Non, ça, c'est pas.
Par contre, ça peut avoir d'énormes conséquences sociales.
Oui, oui, bah, bien sûr. Et en fonction de ton jet de lien.
Je suis le fils de l'évêque.
Bah ouais. En fonction de ton jet de lien, les icônes vont intervenir ou pas dans l'histoire, et ton histoire personnelle à toi peut être aussi impliquée.
Mais tu vois, le truc, c'est que si tu prends effectivement l'aspect « je suis le fils donc, de la grande prêtresse », qui est donc le personnage, le clair niveau 20, donc l'icône cléricale par excellence, voilà, tout à fait, si tu prends cet aspect-là, à la limite, tu peux le prendre. Mais par contre, il faut que ça se traduise aussi dans les points que tu vas investir dans tes relations aux icônes, c'est-à-dire que tu vas devoir mettre tes points de façon massive dans tes relations avec elles, et... Si tu veux vraiment faire avancer l'histoire, si tu joues le jeu, et encore une fois, ce 13e âge, le principe c'est qu'on est autour d'une table où tout le monde veut jouer le jeu, et on n'est pas là pour le grobilisme, tu vas t'arranger pour que ta relation avec ta mère, elle soit très compliquée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas là, genre t'appelles pas maman parce que t'as un problème, t'es parti de la grande cathédrale parce que tu t'entends mal avec ta mère.
Parce que ça va pas du tout à la maison.
Et dans ce cas-là, tu vas mettre tes points en relation. Il y a 3 types de liens. Il y a amical.
Mais ça a l'air cool du coup.
Pas très amical et entre les deux qui est conflictuel. Tu peux avoir des relations conflictuelles avec les icônes. Généralement, t'as des trucs bien puis t'as des trucs moins bien. Donc voilà, excuse-moi. Donc j'étais revenu sur cette création-là. C'est important parce que ça montre aussi un petit peu comment fonctionne le jeu.
Puis c'est bien, ça rattache avec le background.
Ouais. On a ensuite, on va parler d'un chapitre que moi je trouve ça sympa, que je trouve sympa, c'est pas très français, pardon, qui est les objets magiques. Donc ils ont comme originalité d'être vivants, entre guillemets, c'est-à-dire d'être doués de personnalité. Ça, c'est lié, ça fait un petit peu penser à Bloodlust. Mais... Les objets magiques en général, donc pas que les armes, mais les objets magiques en général ont des personnalités, des manies, des défauts, enfin ils ont des envies particulières, un peu comme une arme instinctive dans Bloodlust, qui peuvent teinter la personnalité du personnage qui les possède. Donc tu vas porter, je sais pas, une dague par exemple, puis elle aura une personnalité vicieuse, ou alors une personnalité, je sais pas, elle va t'obliger à un truc. Il y en a un où tu dois tremper le sang, à chaque fois que tu as du sang, tu as envie de tremper les doigts dedans pour faire des dessins avec. Il y en a un où tu grinces des dents, enfin voilà, des choses comme ça. Tu as une limite au nombre d'objets.
Tu bruxises.
Ouais, c'est vrai. tu ne peux posséder un nombre d'objets magiques au maximum égal à ton niveau. Donc si tu es niveau 2, tu as le droit au maximum à 2 objets magiques. Si tu en portes plus, leur personnalité à elle, leur manie, l'emporte sur ta propre personnalité et tu es obligé de jouer avec des versions complètement démesurées des personnalités. Donc tu serres les dents et tu n'arrives plus à parler, ou alors tu peux plus voir un truc rouge sans te jeter dessus pour essayer de faire des dessins avec, etc. Donc ce qu'il dit, c'est que si tu en as un en plus, tu tires un peu le diable par la queue, tu vas jouer ça et puis ça va typer un peu ton personnage. Si t'en as plus, tu deviens joueur parce que toutes tes armes se mettent à contrôler ta personnalité, enfin tous tes objets, et donc tu n'as plus de personnalité parce que tu n'es que le jouet des objets magiques que tu portes.
Et d'accord. À haut niveau, ça devient hallucinant, quoi.
Et à haut niveau, évidemment, tu ne peux plus juste pas le faire du tout. Mm-hmm. Les objets magiques aussi, t'as des emplacements qu'on va appeler des chakras, des emplacements d'objets magiques par exemple. Ouais. Avant, dans les anciennes versions de donjon, t'as le droit de porter un pendentif, 2 anneaux, une épée, etc.
Mais ça, c'est arrivé avec la 3e édition, ouais. Si je dis pas de bêtises.
Mais c'était 2 anneaux.
Plus un prince Albert.
Plus un prince Albert. Ou un Médusa. Et donc.
Médusa, c'est ouais, où ça c'est...
Et donc, l'idée, c'est que. Ça t'empêchait d'utiliser les objets magiques. Je sais pas, si t'avais 3 épées, bah t'as pas le droit d'utiliser les 3 en même temps. Bon, c'est une petite limitation.
Sauf dans certains mangas où il la serre entre les dents.
Là, l'idée, c'est que tu vas tisser un lien avec l'arme ou l'objet magique en question qui va prendre l'emplacement. C'est-à-dire que si t'as un pendentif, le pendentif, tu vas te lier à un pendentif, et même si tu en as trois, il y en a qu'un que tu vas pouvoir porter, et il y en a qu'un qui va pouvoir t'apporter des pouvoirs. Même si tu changes de pendentif, t'as l'ancien qui va être jaloux, qui va dire « Ah, qu'est-ce que tu fais ? Ça va pas ou quoi ? Remets-moi » Et le nouveau, tu pourras même pas t'en servir.
Métaphoriquement, ou ils parlent, les objets ?
Alors, ils peuvent parler, ils peuvent envoyer des informations, ils peuvent te faire ressentir des émotions, ils peuvent...
C'est une conscience embryonnaire. À bout de l'œil, ce serait une arme mineure.
Tout à fait.
Mineure ou instinctive, tu vois, c'est un truc très léger. Donc voilà, ça j'aime bien aimé, ça fait un peu à la manière de Hearthstone dont on a déjà parlé. Il n'y a pas 36 objets magiques, ils disent souvent qu'on ne peut pas les vendre, qu'on ne peut pas les acheter, que c'est quelque chose qui doit être rare, complexe, oulala, attention, c'est vraiment, fais attention. Par contre, ton pognon, tu peux le dépenser dans les objets à usage unique, genre potions de soins, des runes, pour tes, voilà. C'est le seul objet qu'il y a dans le jeu. Okay.
D'accord.
Soit les trucs utilisables, soit des trucs rares, complexes, qu'il va falloir déterminer un par un. T'as une petite liste quand même d'effets de base. Le maître de jeu est invité à créer les objets magiques, comme ils ont tous une personnalité, bah, qui est une importance quelconque dans cet univers, encore une fois, pour y ajouter du background et des idées de jeu. Enfin, on termine par un scénario et par un index, donc à la fin. Le scénario, c'est une introduction, donc c'est plutôt sympa, mais voilà, sans plus. Ça montre bien surtout comment on peut mettre en place un cadre d'un scénario et comment on peut modifier ce cadre, l'adapter à ses joueurs et aux icônes qu'on veut mettre en avant. Typiquement, le jeu il commence en disant voilà 5 motivations exemples qui peuvent amener vos joueurs en fonction de leurs icônes ou en fonction de vos envies à intégrer le scénario. Ensuite, par exemple, il y a une tour qui s'appelle le pilier de la foudre. Il t'explique voilà 4 manières de modifier ou 5 manières de modifier le pilier de la foudre pour que ça corresponde à l'icône qui s'en occupe. Si par exemple vous avez la druidesse, et ben considérez que c'est un peu sauvage et puis qu'il y a des monstres géants, enfin des bêtes géantes dans des cavernes non loin qui protègent. A l'inverse, si c'est l'archimage, bon bah il y a des sorts partout, il y a un bouclier d'énergie autour, etc. Donc c'est des exemples, tout ça, tu n'es pas obligé de les suivre, mais bon voilà. Les combats, c'est pareil, ils te disent les joueurs peuvent faire ça ou autre chose. Et puis, on va les envoyer sur telle mission-là, mais s'ils refusent, bah en fait, les gens font la gueule et c'est pas grave. Mais ça a une importance. Non, mais c'est quand même géré dedans. Il y a un traître à un moment, alors le traître, ça peut être lui, ou peut-être lui. Donc voilà un petit peu comment on adapte. C'est plus c'est rigolo, je le présente comme ça exprès de manière humoristique, mais l'idée, c'est que le squelette est simple. Et présente une suite de combats, et la manière de mettre en scène ces combats, enfin d'arriver jusqu'à ces combats, est dépendante des motivations et des icônes que les joueurs vont suivre.
C'est quand même toujours mieux que ces scénarios où, si tant que tu ne suis pas exactement ce que le meneur avait en tête, tu te heurtes à des murs étranges et à des situations foireuses qui t'obligent à faire demi-tour.
Ouais, mais j'espère qu'avec un certain nombre d'années dans les pattes, on ne fait plus ça. Alors, je vais faire une petite conclusion, puis après on débattra un petit peu si vous voulez.
On se cogne contre les textures.
Est-ce que moi je pourrais te demander, après ta conclusion, de prendre juste 2 minutes pour...
Ouais, bien sûr, sans problème. Donc moi, ce que j'aime dans ce jeu, ce sont les icônes. Clairement, c'est vraiment le truc majeur du jeu.
Ça a l'air d'être le truc cool du jeu.
C'est majeur, cool, bien fait, intelligent. Vraiment, je kiffe. T'as les prouesses. Les prouesses, c'est exactement ce que t'as dit. C'est des dons qui améliorent n'importe quelle partie de ta feuille de perso. Donc, comme t'en as pas beaucoup, en plus, tu te prends pas trop la tête et tu dis, bah tiens, je vais améliorer mon sort de sommeil, ou alors je vais améliorer mes doubles attaques, ou alors je vais améliorer mon compagnon animal.
Je vais améliorer le dessin de mon perso.
Ça, c'est pas mal. Il y a les paliers qui sont plutôt bien vus pour déterminer des difficultés très rapidement. Et puis, t'arrives en disant, bah voilà, là, le palais machin, il est palier héros. Je veux dire, les mecs, tu vas le décrire un peu mieux que ça, si tu es un peu plus roleplay que moi. Mais sinon, mais globalement, ça pose quand même un peu mieux. Les objets magiques, donc je trouve que c'est une bonne idée. J'aime bien aussi les inserts. Alors, dans tout le bouquin, tu as des inserts, des petits encadrés avec les conseils des auteurs. Alors, bon, ça va faire marrer Jean-Baptiste, ça le fait déjà marrer. L'idée, c'est que tu as des inserts qui disent bah, « Moi, je m'appelle Rob Ensou, moi, sur ce point-là des règles, je le ferai plutôt comme ça. Jonathan, c'est un connard, il le joue mal, lui. » Et puis juste après, t'as un insert de Jonathan qui dit « N'importe quoi, c'est moi qui fais mieux. » Et puis d'ailleurs, vous devriez plutôt utiliser la règle de cette manière plutôt qu'une autre.
J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part.
Bon, on a fait ça dans le DK2. Je pense que je suis pas sûr qu'on soit les inventeurs du truc. Mais
ils nous ont tout piqué. Non, soyez bon franc.
Mais en attendant, c'est super bien fait. Et moi, je trouve, enfin, super bien fait. C'est moins bien fait que nous, mais c'est pas mal fait. Et c'est intéressant d'avoir à chaque fois l'œil. Pas de l'auteur, mais enfin si, du game designer, on va dire, sur sa propre création. Et en fait, le bouquin, c'est un tout en un, il y a les règles et le scénar, tout est compris dedans. Ce que moi, j'aime pas, alors, on va parler de la traduction. La traduction, alors moi, je parle de la version française, évidemment, sinon je parlais pas de traduction, mais en tout cas, la traduction elle-même, et surtout
la polonaise est super bien,
la polonaise est super bon, et surtout la relecture qui aurait dû suivre cette traduction est absolument abominable. Et vraiment, les mots y sont et ils veulent dire quelque chose. Il y a des fautes absolument partout. Il y a des mots manquants, il y a des mots pas traduits. C'est-à-dire que dans le scénario, dans tout le jeu, les objets magiques, on dit qu'ils ont des manies. Et dans le scénario, il y a marqué quirks, parce qu'il y a un objet magique. Ah oui, on te dit évidemment dans le scénario, enfin dans tout le bouquin, que les objets magiques, oh là là, c'est rare, c'est compliqué, il faut les faire sur mesure. Dans le scénario de base, on t'enfile 4 en prêt. Comme ça, pour rigoler.
Ça, c'est plus des histoires de traduction, c'est la manière dont le scénario a été fait.
Oui, alors, effectivement, je reste sur la traduction. Alors, c'est pas forcément la traduction, je disais, c'est... Alors, oui. La traduction elle-même, elle est... des fois, il y a des trucs qui sont traduits différemment d'une page à l'autre, c'est un peu bizarre. Des fois, il y a des trucs qui sont pas traduits, mais c'est surtout la relecture. Il y a une grammaire hasardeuse, genre « il était là », écrit « il », donc « était », « e-t-e », enfin « e-t-e ». Bon, c'est un petit peu... voilà. On passe ce point-là. L'organisation des chapitres elle-même est anarchique. Comme je disais, je trouve que c'est juste pas dans le bon ordre. Enfin, c'est juste pas, comment dire, pédagogique. L'utilisation de termes...
Alors, est-ce que ça, c'est dû à la VF ou...
Je pense que c'était la même chose.
C'est pareil sur la VO.
Okay, d'accord.
L'utilisation de termes et de concepts, donc expliqués à un mauvais moment, donc liés à cette organisation anarchique. Uh-huh. Le gameplay trop différent d'un personnage à l'autre. Moi, je trouve que c'est inutilement différent.
Ouais, bah je reviendrai là-dessus.
Pour le coup, je sais pas, vous avez montré qu'apparemment c'était plutôt utile d'avoir par exemple le barbare pour les gens comme moi qui sont un peu déficients mécaniquement parlant. Alors, et...
je dis bien ce que moi j'aime pas, j'ai pas dit ce qui marchait pas.
Ah d'accord, ok, très bien.
Ce que moi j'aime pas.
Okay.
Il y a aussi un côté, comme on disait tout à l'heure, on est super narrativo, funky, faites ce que vous voulez, regardez, on est trop pas du dé de vin. Mm-hmm. Mais en même temps, on va vous mettre autant de tables qu'avant, vous donner des règles hyper rigides, mais vous pouvez les péter facilement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le scénario parce qu'on pète 3 fois les règles, juste dans le scénar. Les objets magiques hyper rares avec des personnalités, bon, on va vous enfiler 3-4 dans le scénar. Le fait que ça ressemble plus à un tas de notes qu'un jeu de rôle, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis pour moi, c'est vraiment, regardez, nous on joue comme ça au dé de 20, c'est génial, pas vrai? Et pour moi, ça ne fait pas un jeu de rôle. Voilà.
D'accord, ah ouais.
Alors, moi je te trouve dur, on a discuté avant l'émission, je te trouve vraiment dur sur le jeu. Bon, moi je vais mettre l'accent sur un truc qui moi me paraît absolument essentiel. Sur le marché, un donjon, pas officiel, hein, c'est comme Pathfinder RPG, c'est un donjon pirate, mais un donjon qui, en un seul volume, vous file le triptyque, 20 pages d'univers et un scénario d'introduction, il n'y en a pas.
C'est clair,
c'est le seul.
Ça c'est clair.
Rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. Ceci posé, je suis d'accord sur l'organisation, ça choque un peu, on commence dès le départ, on t'explique pas ce que tu vas jouer, on te balance les icônes d'entrée de jeu, maintenant c'est vrai que c'est le cœur du jeu. Toutes les mécaniques sont pas hyper élégantes, quand il te parle donc effectivement d'un personnage de niveau 10 qui à chaque coup d'épée va lancer 10d10, enfin ou 10d8 de dégâts, sans compter les effets des pouvoirs de classe, faut reconnaître que c'est... Enfin, moi, rien que d'y penser, j'en frémis. Maintenant, les auteurs, eux-mêmes, font la démarche de mettre un petit encadré. Si ça vous fait frémir, faites des moyennes sur une partie du pool 2D.
Alors, la dernière fois qu'on m'a dit ça, c'était dans Rift. C'est-à-dire que dans Rift, on lançait des brouettes 2D. Au bout d'un moment, même l'auteur il disait c'est un peu beaucoup quand même. Mais faites des moyennes ou lancez un dé de 10 x 10.
Mais je ne cherche pas à te dire que c'est excusable. J'ai tiqué dessus, je ne trouve pas ça élégant. Il y avait probablement une autre manière de faire. C'est la manière qu'eux ont utilisée pour contourner un des gros défauts de DD sur quasiment toutes les éditions modernes, on va dire, à partir de la 3.0, à savoir la surenchère des classes d'armure et des jets d'attaque. Eux ont finalement relativement limité la progression des classes d'armure et des jets d'attaque. On n'aura pas un truc, on n'atteindra jamais 42 classes d'armure, c'est impensable. Je pense que le monstre le plus blindé du jeu, qui doit être le grand dragon rouge, doit tourner à quelque chose comme, faudrait vérifier, mais je pense qu'il dépasse pas 30, mais par contre il tape comme un sourd et il encaisse comme un sourd. Donc ça c'est la façon dont eux ont contourné le truc. Ceci posé, il y a plein de bonnes idées, les talents en freeform, je pense que Yannick est d'accord avec moi, il y a du bon et du contre. Moi j'aime pas négocier à ma table de jeu, donc je préfère les 7 posés de compétences, mais à la limite je peux l'envisager. Le truc unique que chaque personnage a, c'est super sympa.
Ouais, génial.
Ouais, c'est cool.
Le rapport aux icônes, c'est super sympa parce qu'effectivement, mm-hmm. ça te met tout de suite en rapport avec les personnages qui font et défont l'univers, avec surtout le potentiel que tu as dès le départ. Tu es quelqu'un qui va changer le monde, parce qu'à un moment, au fur et à mesure de ta progression en puissance, tu vas devenir un interlocuteur et peut-être une menace pour une icône avec qui tu avais un rapport au début, etc. etc.
Ce qui est bien, c'est que là, finalement, le mécanisme de création des personnages te pousse dans cette direction plutôt que d'être dans la situation où le meneur va essayer de t'imposer ça dans la première partie sur des persos que tu n'avais pas du tout prévu pour
là,
ça.
Là, c'est toi qui choisis vraiment.
Ça, voilà. C'est bien ça.
Toi, tu détermines ton truc et après, le maître de jeu, bah, mine de rien, à cause de cette mécanique des icônes, lui, il va, à bon gré mal gré, mais plutôt bon gré si la prise de jeu là, c'est pas par ça, il va axer sa campagne sur ta relation à telle icône et il va essayer de faire une sauce avec l'ensemble des
persos. Puis le fait de toute façon que les icônes soient un peu floues et que ça permet aux meneurs et aux joueurs finalement de mettre dedans ce qu'ils veulent. Et donc de créer les personnages clés de l'univers en fonction de leurs envies, plutôt que d'avoir à se fader des pages de background.
Alors voilà, point, justement, on va revenir sur un truc qu'on avait oublié au début. Tu disais que 13e âge n'était pas adaptable aux autres univers. Ça, c'est un point sur lequel.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était complètement inadaptable. Je dis que l'idée majeure, c'est les icônes. Et que j'ai un peu de mal à... Si tu pourrais transposer l'idée ou le concept de dire dans un monde moderne, par exemple, j'ai 12 icônes spéciales. Attends, Steve qui veut
moi je vous ai écouté parler et j'ai l'impression qu'il y a une... Enfin, de tous les éléments que vous avez apportés, j'ai l'impression d'avoir une vision assez claire d'un univers qui se dessine. Quoi. Ça se dessine des capacités, j'apprends que c'est un univers où les hauts elfes peuvent se téléporter, un univers où Tadak peut te parler, elle peut râler si tu la fais combattre quand elle veut pas que tu combattes, etc., etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de couleurs d'univers qui sont apportées.
Ça se dessine en creux, en fait.
Ouais, ça se dessine
c'est
en creux.
C'est le principe même du Dungeonverse sur chaque émission.
Mais on a quand même l'impression que c'est du coup difficile de l'adapter à un autre univers, parce qu'il y a quand même des particularités qui sont subtiles et qui sont en creux mais qui sont bien là et moi j'y suis, moi je me visualise un truc très précis.
Ça permet, j'ai l'impression que ça peut quand même permettre de créer pas mal d'univers Medfan différents à partir de cette même structure.
Moi perso, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est dans quelle mesure je peux utiliser 13e âge pour les univers classiques de D&D, notamment Eberron, Darkson, etc.
Et Archipel.
Ouais, je connais pas Archipel.
Non, mais c'est notre truc à nous, ça.
faut pas chercher.
Et au final, ton choix d'adaptation, enfin ton adaptation, elle se limite à quoi? Quelles vont être les 13 icônes de l'univers dans lequel tu veux jouer?
12.
Et oui. 13, il y en a 13.
Ah bon?
Eh oui. Mais
Non, vas-y, continue.
Et ce qui est extrêmement intéressant, finalement, en plus, même le choix des icônes que tu vas faire, on prend le cas d'Eberron, on sait qu'entre les maisons à dracogrammes, les entités secrètes, les gouvernements, etc., etc.
Non, vas-y, continue. Il y en a 13.
Voilà. On sait qu'il y a largement de quoi piocher tes 13 icônes. Il y a même, parce qu'il y a plus d'intervenants qui sont des icônes potentielles dans le monde d'Eberron. Seulement, en choisissant 13 parmi ces 30 choix possibles, tu vas dès le départ cadrer ta campagne. Et moi, je trouve ça super intéressant. Bon, après, voilà, je ne vais pas y passer 15 ans, je ne vais pas faire une seconde chronique. Il y a des points qui sont soulevés par Yannick qui sont évidents. C'est-à-dire qu'il y a une structure un petit peu bordélique. C'est, encore une fois, on ne le répétera jamais assez parce que c'est le point le plus important. Et ceux qui sont d'accord, ce n'est pas un livre pour se lancer dans D&D, c'est un livre pour découvrir une façon de voir de D&D quand tu connais déjà bien ton sujet.
Pour aller plus loin, pour le prendre différemment.
En fait, ouais, pour le prendre différemment, t'as bien joué des campagnes, tu kiffes bien Donjons et Dragons 3, 5, 4, et puis t'as envie de découvrir autre chose, putain, c'est rafraîchissant, ça marche bien, il y a des bonnes idées, et je pense que c'est une bonne étape vers des jeux moins lourds, techniquement parlant, et peut-être tout en conservant les idées modernes qu'ils ont pu intégrer dedans.
Il va être intéressant de voir le prochain Donjons et Dragons à la lumière de
D&D Next. Mais il y a beaucoup de gens qui estiment sur les forums américains, notamment de discussions sur D&D, qu'entre Pathfinder RPG et 13e âge, parce que 13e âge marche très très bien aux États-Unis, D&D Next maintenant a deux très gros concurrents et va avoir beaucoup de mal à trouver sa place.
À ce point, sur 13e âge,
marche très très bien. Cool. Donc très bon retour critique et le jeu est joué, le jeu se vend par paquet de 12. Là, il y a le ils sortent un...
Sincèrement, quand tu sors de donjon 3, 3, 5 ou 4 et que tu arrives sur ces règles-là, tu
t'es
kiffes
à l'aise, hein.
Grave.
Ah oui, t'es à l'aise, ça je vais pas...
T'es vraiment à l'aise. Moi, j'ai dit que j'ai du mal parce que j'ai du mal sur la forme, j'ai du mal sur un certain nombre de choses que je trouve inutiles par rapport aux idées qu'ils ont ajoutées. Et j'ai dit que moi, je trouvais que ça n'en faisait pas un, que ce bouquin-là n'en faisait pas un jeu. Mais l'ensemble, j'ai 10 ans d'expérience sur donjon et je joue à ça après, ça marche nickel, vraiment. Hein.
Ah, je sens que je vais le lire.
On va s'arrêter là si vous le voulez bien.
Ouais.
On fait la pause.